Pinocchio par Carlo Collodi, quatrième cassette, deuxième face, page 177.
Pinocchio continuait à pleurer, à se lamenter, à se frapper la tête du poing et appeler par son nom le pauvre Eugène, lorsqu'il entendit soudain un bruit sourd de pas qui s'approchait. C'étaient deux gendarmes.
« Que fais-tu ainsi couché à terre ?» demandèrent-ils à Pinocchio.
« J'assiste mon camarade d'école. »«
Il lui est donc arrivé du mal ?»«
Je crois bien. »«
Plus que du mal, » dit un des gendarmes, qui se baissant observa Eugène de tout près. « Cet enfant a été blessé à la tempe. Au bord du front. Qui est-ce qui l'a blessé ?
Ce n'est pas moi, balbutia Pinocchio, plus mort que vif.
Si ce n'est pas toi, qui est-ce ?
Ce n'est pas moi, répéta Pinocchio.
Et avec quoi l'a-t-on blessé ?
Avec ce livre. Et Pinocchio ramassa à terre le traité d'arithmétique relié en carton et parchemin, afin de le montrer aux gendarmes.
« Et à qui est ce livre ?»«
Il est à moi. »«
Ça suffit, peu importe le reste. Relève-toi vite et viens avec nous. »« Viens avec nous !»«
Mais je suis innocent. »«
Viens avec nous !»
Avant de partir, les gendarmes appelèrent quelques pêcheurs qui passaient à ce moment dans leur barque, tout près du rivage, et leur dirent.
Nous vous confions cet enfant qui est blessé à la tête. Emportez-le chez vous et soignez-le. Demain, nous viendrons le voir.
Puis, se retournant vers Pinocchio, ils le placèrent entre eux deux et lui intimèrent militairement.
En avant et marche vite, sinon gare à toi.
Se le tenant pour dit, Pinocchio avança par le petit chemin qui conduisait au village. Mais le pauvre garçon ne savait plus dans quel monde il vivait. Il croyait rêver. Et quel rêve! Il était hors de lui, ses yeux voyaient tout en double, ses jambes tremblaient, sa langue était restée collée à son palais, il ne pouvait plus prononcer une seule parole. Et puis, au milieu de cette espèce de stupidité et d'hébétement, il sentait comme une épine très aiguë s'enfoncer dans son cœur, à la pensée qu'il allait passer sous les fenêtres de sa bonne fée entre deux gendarmes. À cela, il aurait préféré la mort. Ils allaient entrer dans le village lorsqu'un violent coup de vent fit sauter de sur sa tête le bonnet de Pinocchio qui s'envola à une dizaine de pas. « Je voudrais bien, » dit le pantin au gendarme, « allez chercher mon bonnet. »«
Va, mais fais vite !»
Pinocchio alla ramasser son bonnet, mais au lieu de le mettre sur sa tête, il le prit dans sa bouche, le serra entre ses dents et se mit à courir de toutes ses forces dans la direction du rivage. Il filait comme une balle. Les gendarmes, jugeant qu'il le serait difficile de le rejoindre, mirent à ses trousses un gros chien qui avait gagné le premier prix dans toutes les courses de chiens. Pinocchio courait et le chien courait plus vite que lui. Aussi tout le monde se mit-il aux fenêtres pour se précipiter ensuite dans la rue. On était anxieux de voir la fin de cette lutte effrénée. Mais le chien et Pinocchio soulevaient sur la route tant de poussière qu'au bout de quelques minutes, les gens ne purent plus rien voir. Chapitre 28. Pinocchio court le danger d'être frit dans la poêle comme un poisson. Durant cette course désespérée, il y eut un moment terrible, un moment où Pinocchio se crut perdu, car Alidor, tel était le nom du mâtin, du gros chien, à force de courir et de courir, l'avait presque rejoint. Le pantin entendait à quelques centimètres derrière lui le halètement féroce de l'animal. Et il sentait parfois jusqu'à la chaleur de son souffle. Par bonheur, le rivage n'était pas loin et l'on voyait déjà la mer à quelques pas. À peine arrivé sur la plage, le pantin fit un grand saut, ainsi qu'aurait sauté une grenouille, et il alla tomber au milieu de l'eau. Alidor avait bien envie de s'arrêter, mais dans l'impétuosité de sa course, il entra dans l'eau derrière Pinocchio. Pour son malheur, il nageait mal. Il commença à s'embrouiller avec ses pattes quand il voulut se diriger sur l'eau. Plus il s'embrouillait, plus il s'enfonçait. Quand il réussit à sortir le museau hors de l'eau, le pauvre chien roulait des yeux épouvantés et il aboyait et il aboyait.
« Oh, oh, je me noie, je me noie !»«
Meurs donc !» lui répondit de loin Pinocchio qui se voyait désormais à l'abri de tout danger.
« Au secours, mon beau Pinocchio, sauve-moi de la mort !»
À ce cri déchirant, Pinocchio, qui au fond avait un excellent cœur, fut ému de compassion. Il se retourna vers le chien et lui dit « Mais si je viens à ton secours, me promets-tu de ne plus me tourmenter, de ne plus me poursuivre ?»«
Je te le promets, je te le promets, dépêche-toi, de grâce !» dit le chien, « car si je reste ainsi encore une demi-minute, je suis bel et bien mort, noyé !»
Pinocchio hésita un instant. Mais il se rappela que son papa lui avait souvent dit qu'on ne se repent jamais de faire une bonne action. Il se mit donc à nager à la rencontre d'Alidor, le prit à deux mains par la queue et l'entraîna sain et sauf sur le sable sec du rivage. Le pauvre chien ne se tenait plus sur les jambes. Il avait, sans le vouloir, avalé tant d'eau salée qu'il était gonflé comme un ballon. Pourtant, Pinocchio, qui ne se fiait pas trop à lui, jugea prudent de se jeter de nouveau dans la mer. Il s'éloigna en criant à l'ami qu'il venait de sauver. « Adieu, Alidor, et bon voyage! Bien des choses chez toi !»«
Ouah, ouah! Adieu, Pinocchio !» répondit le chien. « Tous mes remerciements pour m'avoir sauvé la vie. Tu m'as rendu un grand service, et en ce monde, un bienfait n'est jamais perdu. À l'occasion, tu me retrouveras à ton service. »
Pinocchio continua de nager en se tenant toujours à proximité de la terre. Il lui sembla enfin être arrivé dans un lieu sûr. Il jeta un coup d'œil sur la rive, aperçut sur un rocher une espèce de grotte d'où sortait de la fumée en un long panache. Dans cette grotte, se dit-il à lui-même, il doit y avoir du feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu. « Tant mieux, j'irai me sécher et me réchauffer un peu. Et puis, advienne que pourra. » Cette résolution prise, il s'avança vers le rocher. Mais au moment de l'escalader, il sentit sous l'eau quelque chose qui montait et le soulevait en l'air. Aussitôt, il essaya de fuir, mais il était trop tard. Car à son grand ébahissement, son grand étonnement, il était pris dans un énorme filet au milieu d'un tas de poissons de toute forme et de toute grandeur qui grouillaient, remuaient la queue et se débattaient comme des désespérés. Au même moment, on vit sortir de la grotte un pêcheur si laid, si affreusement laid, qu'il ressemblait à un monstre marin. Au lieu de cheveux, il avait sur la tête comme un gazon touffu d'herbe verte. La peau de son corps était verte, ses yeux étaient verts, sa barbe était verte et très longue. Elle lui descendait jusqu'au bas des jambes. On aurait dit un gros lézard se tenant tout droit sur ses pattes de derrière. Quand le pêcheur eut sorti le filet hors de l'eau, il s'écria tout joyeux.
« Oh, quelle chance! Aujourd'hui encore, je pourrai me régaler de poisson. »
« Heureusement que je ne suis pas un poisson, » se dit Pinocchio qui reprenait courage. Le filet tout plein fut porté par le pêcheur dans la grotte. C'était une grotte sombre et tout enfumée, au milieu de laquelle une poêle pleine d'huile, placée sur un foyer, répandait une odeur si âcre de suif qu'on en avait la respiration coupée.
Voyons un peu quel poisson nous avons pris, dit le pêcheur,
et plongeant dans le filet une grosse main disproportionnée, qui ressemblait plutôt à une pelle à four, il en tira une poignée de rougets.
Oh, oh, les bons rougets,
dit-il en les regardant et en les tâtant avec plaisir. Et après les avoir bien palpés et tâtés, il les jeta dans une terrine sans eau. Il répéta plusieurs fois la même opération, et à mesure qu'il sortait les poissons, l'eau lui venait à la bouche. Tressaillant de joie, il disait
« Quel beau merlan !
Ah, les exquis mulets ! Les délicieuses soles ! Les excellentes sardines ! » Vous pouvez bien penser que les merlans, les mulets, les soles, les sardines allèrent tous pêle-mêle tenir compagnie aux rougets dans la terrine. Le dernier qui resta dans le filet, ce fut Pinocchio. Dès que le pêcheur l'eut sorti, il ouvrit tout grand ses yeux et s'écria un peu effrayé.
« Mais à quelle race appartient ce poisson-là ? Je ne me rappelle pas en avoir jamais mangé d'un pareil. »
Il le retourna pour le regarder minutieusement, puis après l'avoir examiné et tâté en tous les sens, il conclut
« J'ai trouvé !
Ce doit être une écrevisse de mer !» Alors Pinocchio, vexé de se voir pris pour une écrevisse, dit d'un accent mécontent
« Écrevisse ? Voyons un peu comment on me traite. Sachez que je suis un pantin. »
Un pantin ? Répliqua le pêcheur.
J'avais bien raison. Le poisson pantin, pour moi, c'est nouveau. Ça vaut mieux. Je te mangerai avec plus de plaisir.
Me manger ? Dit Pinocchio.
Mais comprenez-vous donc que je ne suis pas un poisson ? N'entendez-vous pas que je parle et que je raisonne comme vous ? « C'est très vrai, » ajouta le pêcheur. « Et comme je vois que tout poisson que tu as le bonheur de parler et de raisonner comme moi, j'aurai pour toi les égards qui te sont dus. »
« Et quels sont ces égards ?»«
En signe d'amitié et d'estime toute particulière, je te laisserai choisir la manière dont tu seras cuit. Désires-tu être frit à la poêle ? Ou préfères-tu être cuit à la casserole avec de la sauce tomate ?
Oh, à dire la vérité, répondit Pinocchio, si je dois choisir, je préfère la liberté pour retourner bien vite à la maison.
Tu plaisantes, dit le pêcheur, et tu crois que je vais perdre l'occasion de goûter à un poisson aussi rare que toi ? Il n'arrive pas tous les jours des poissons pantins sur cette côte.
Sois tranquille. « Je te ferai frire dans la poêle en même temps que tous les autres poissons, et tu t'en trouveras bien. C'est toujours une consolation que d'être frit en compagnie. » À ce discours, le malheureux Pinocchio se mit à pleurer, à crier et à se recommander à Dieu. Il sanglotait en disant
« Ah, comme il aurait mieux valu que je fusse allé à l'école. J'ai voulu suivre mes camarades. » Et je le paye durement.
Et il se démenait comme une anguille et faisait des efforts incroyables pour s'échapper des griffes du pêcheur. Mais celui-ci prit une belle poignée d'algues et après l'avoir attaché pieds et poings liés comme un saucisson, il le jeta au fond de la terrine avec les autres. Puis il sortit une grosse écuelle de bois pleine de farine et se mit à enfariner tous ses poissons. À mesure qu'il les avait enfarinés, il les jetait dans la friture, dans l'huile bouillante. Les premiers qu'il mit à frire furent les merlans, puis vinrent les sardines, les mulets et les soles. Ce fut enfin le tour de Pinocchio, qui se voyant tout près de la mort, et de quelle mort, fut pris d'une telle frayeur et d'une telle épouvante qu'il n'avait plus ni voix ni souffle pour demander grâce. Le pauvre malheureux implorait du regard, mais le pêcheur, sans y faire attention, le roula 5 ou 6 fois dans la farine, l'enfarina des pieds à la tête, si bien qu'il ressemblait à un pantin de plâtre. Il le prit ensuite par la tête et... Chapitre 29. Pinocchio retourne chez la fée. Elle lui promet qu'il cessera d'être un pantin pour devenir un enfant. Excellent goûter de café au lait pour célébrer ce grand événement. Au moment où le pêcheur allait jeter Pinocchio dans la poêle, entra dans la grotte un gros chien attiré par l'odeur très forte et l'appât de la friture. « Va-t'en !» lui cria le pêcheur menaçant qui tenait toujours à la main le pantin enfariné. Mais le pauvre chien avait faim pour 4. Et grognant, agitant sa queue, il dit « Oh, oh, donne-moi un morceau de friture et je te laisserai en paix. « Va-t'en, te dis-je » lui répéta le pêcheur qui allongea la jambe pour lui donner un coup de pied. Alors le chien, qui lorsqu'il avait faim n'avait pas l'habitude de se laisser intimider, se retourna hargneux vers le pêcheur en lui montrant des dents terribles et en grondant même moment, on entendit dans la grotte une toute petite voix, faible comme un souffle, qui disait « Sauve-moi, Alidor, si tu ne me sauves pas, je vais être frit dans l'huile bouillante. » Le chien reconnut bien vite la voix de Pinocchio et il s'aperçut à son grand étonnement que la petite voix était sortie du paquet enfariné que le pêcheur tenait dans sa main. Alors que faire ? Il s'élança, saisit dans sa bouche le paquet enfariné, et le tenant avec précaution entre ses dents, il sortit de la grotte en courant et fila comme une flèche. Enrageant de se voir enlever des mains ce poisson qu'il aurait mangé avec tant de plaisir, le pêcheur essaya de poursuivre le chien, mais à peine eut-il fait quelques pas qu'il fut pris d'une quinte de toux qui l'obligea à revenir sur ses pas. Quant à Lidor, eut retrouvé le sentier qui conduisait au village, il s'arrêta et posa à terre délicatement l'ami Pinocchio. « Ah, comme je te remercie, » dit le pantin. « Ce n'est pas la peine, » répondit le chien, « tu m'as sauvé toi-même. Service pour service, en ce monde, il faut savoir s'entraider. »« Mais comment es-tu arrivé jusqu'à cette grotte ?» demanda Pinocchio. « J'étais toujours ici, étendu sur la plage, » dit le chien, « et plus mort que vif, lorsque le vent m'apporta une bonne odeur de friture. Cette odeur me donna de l'appétit et j'ai cherché d'où elle venait. Ah ! Si j'étais arrivé une minute plus tard !»« Ne m'en parle pas !» s'écria Pinocchio, qui tremblait encore de frayeur. « Si tu étais arrivé une minute plus tard, je serais à cette heure bel et bien frit, mangé et digérer. Je frissonne rien que d'y penser. Alidor, riant, tendit sa patte droite à Pinocchio, qui la lui serra en signe de grande amitié, puis ils se séparèrent. Le chien reprit le chemin de sa demeure, et Pinocchio, resté seul, se dirigea vers une cabane non loin de là, et demanda à un vieillard qui, sur le pas de sa porte, se chauffait au soleil. « Dites-moi, brave homme, auriez-vous des nouvelles d'un pauvre petit garçon qui a été blessé à la tête et qui s'appelait Eugène ?»« Des pêcheurs, répondit le vieux, ont apporté l'enfant dans cette cabane. Mais maintenant... »«
Maintenant, il est mort ?»
interrompit Pinocchio avec un accent de grande douleur.
« Non, il vit encore, et il est retourné chez lui. »
« Vraiment, vraiment !» s'écria le pantin en sautant de joie. « Sa blessure n'était donc pas grave. »«
Elle aurait pu devenir très grave, et même mortelle !» répondit le vieillard, « car on lui avait jeté à la tête un gros livre, relié en parchemin. »«
Et qui donc le lui a acheté ?» demanda Pinocchio.
« Un de ses camarades d'école, un certain Pinocchio. »«
Ah, et qui est ce Pinocchio ?» demanda le pantin en faisant l'ignorant.
« On dit que c'est un méchant garçon, un vagabond, un casse-cou. »«
Non, c'est pas vrai, c'est des calomnies, tout ça n'est que calomnie. »«
Tu le connais donc, ce Pinocchio ?»«
De vue, » répondit le pantin.
« Mais... » « Quelle idée te fais-tu de lui ?» demanda le vieillard.
« Oh, à moi, il m'a l'air d'un bon enfant, travailleur, obéissant, aimant son papa et sa famille. » Tandis que le pantin disait tous ses mensonges, il se toucha le nez et s'aperçut que ce dernier avait allongé de plus d'une main.
Alors, tout effrayé, il se mit à crier. « Ne croyez pas, brave homme, tout le bien que je viens de dire de ce garçon. Je le connais très bien. C'est un mauvais drôle, désobéissant, paresseux, qui, au lieu d'aller à l'école, fait le vagabond avec ses camarades. »
Dès qu'il eut prononcé ces paroles, son nez raccourcit et revint à sa grandeur naturelle. « Pourquoi donc es-tu tout blanc ?» lui demanda soudain le vieillard.
« Je vous dirai que... « Sans m'en apercevoir, je me suis frotté contre un mur tout frais blanchi, » répondit le pantin, qui avait honte de raconter qu'on l'avait enfariné comme un poisson pour le faire frire à la poêle.
« Et qu'as-tu fait de ton habit, de ton pantalon et de ton chapeau ?»«
J'ai rencontré des voleurs qui m'en ont dépouillé.
Mais dites-moi, bon vieillard, n'auriez-vous pas à me donner... » un vieux paletot pour que je puisse retourner chez moi.
Mon pauvre garçon, dit le vieux, je n'ai qu'un petit sac où je mets des graines. Si tu le veux, prends-le, le voilà, je te le donne.
Pinocchio ne se le fit pas dire deux fois. Il prit sur le champ le petit sac de graines, qui était vide, et après avoir fait avec des ciseaux un petit trou au fond et une ouverture de chaque côté, il l'enfila comme une chemise. Dans cette tenue sommeille, il marcha vers le village. Mais en route, il ne se sentait pas tranquille. À mesure qu'il faisait un pas en avant, il en faisait aussi un en arrière. Et se parlant à lui-même, il se dit « Comment faire pour me présenter à ma bonne petite fée ?» Que va-t-elle dire en me voyant ? Voudra-t-elle me pardonner cette nouvelle escapade ? Je parie qu'elle ne voudra pas. Oh, certainement non, elle ne me pardonnera pas. Mais ça sera bien fait, puisque je suis un scélérat qui promet toujours de se corriger et qui ne tient jamais ses promesses. Lorsqu'il arriva au village, il faisait déjà nuit noire. Comme le temps était mauvais et qu'on pataugeait dans l'eau jusqu'à la cheville, il résolut d'aller tout droit chez la fée d'y frapper et de se faire ouvrir. Mais quand il y fut, il sentit le courage lui manquer, et au lieu de frapper, il se sauva en courant à une vingtaine de pas de là. Puis il revint jusqu'à la porte une seconde fois, sans se décider à rien. Une troisième fois, il s'approcha sans plus de résultat. Enfin, la quatrième fois, il prit en tremblant le bâton de fer et frappa un tout petit coup. Il attendit longtemps. Une demi-heure après, une fenêtre du quatrième étage, qui était le dernier, s'ouvrit et Pinocchio vit apparaître une grosse limace qui avait sur la tête une petite lanterne allumée. Elle lui dit « Qui vient à cette heure ?»«
La fée est-elle à la maison ?» demanda Pinocchio.
« La fée dort et ne veut pas être réveillée. Mais toi, qui es-tu ?»«
Ben, c'est moi. »
« Qui, moi ?»«
Ben, Pinocchio. »
« Qui, Pinocchio ?»«
Le pantin qui habite dans la maison avec la fée. »
« J'ai compris, » dit la limace. « Attends un instant, je descends et vais t'ouvrir. »
« Dépêchez-vous de grâce, car je meurs de froid. »«
Mon garçon, je suis une limace, et les limaces ne sont jamais pressées. »
Une heure s'écoula. Deux heures s'écoulèrent, et la porte ne s'ouvrait pas. Pinocchio tremblait de peur et aussi de froid, car l'eau lui coulait dans le dos. Il reprit courage et frappa une seconde fois. Il frappa plus fort. À ce second coup, une fenêtre du troisième étage s'ouvrit et la limace apparut.
« Ma belle limace !» cria le Pinocchio de la rue. « Il y a deux heures que j'attends, et par une nuit comme celle-là, deux heures paraissent plus longues que deux années. Dépêchez-vous par charité !»«
Mon enfant !» lui répondit de la fenêtre cet animal merveilleux de patience et de flegme. « Mon enfant, je suis une limace, et les limaces ne sont jamais pressées. »
La fenêtre se referma. Peu de temps après, minuit sonna. Puis 1 heure, 2 heures du matin, et la porte était toujours close.
Alors Pinocchio perdit patience. Il saisit avec rage le bâton de la porte pour frapper un coup à faire résonner toute la maison. Mais le bâton, qui était en fer, se transforma en une anguille vivante, tu sais, les serpents qui ressemblent à des poissons, qui lui glissa des mains et disparut dans une rigole d'eau qui s'étalait au milieu de la rue. « Eh bien !» s'écria Pinocchio, de plus en plus aveuglé par la colère, « puisqu'il n'y a plus de bâton, je continuerai à frapper avec mes pieds. » Et il se retira un peu en arrière, pour envoyer dans la porte une magnifique ruade. Le coup fut si violent que le pied pénétra à moitié dans le bois tendre de la porte, et quand le pantin voulut le retirer, il n'y parvint pas. Son pied restait planté comme un clou. Fin de la deuxième piste de la quatrième cassette, page 197. Pinocchio de Carlo Collodi. Change de cassette.